move to our second speaker. Émilie Blanc is a doctoral student at Université Rennes 2, Haute-Bretagne, where she specializes in contemporary art with a focus on the relationship between art and politics. Her dissertation project, in French, Expression de l'identité de l'art contemporain, genre, race et sexualité à travers les pratiques artistiques développées en Californie dans les années 1970. So this dissertation analyzes the relationship between art and political groups of the era, including Black Power, the Chicano movement, and feminist and gay rights organizations. In 2014, Émilie Blanc spent 6 months as a visiting student researcher at the University of California at Berkeley in support of this project. Her paper today is on exclusion, inclusion, Native American art et musée aux États-Unis depuis les années 1970. Excuse me, j'ai mélangé l'anglais et le français. Exclusion, inclusion. Voilà. Welcome.
Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence ici et je vous remercie aussi pour cette introduction. Donc, je souhaite aujourd'hui introduire cette communication par l'installation performance The Artifact Piece que l'artiste James Luna a réalisée en 1987. Il s'est lui-même exposé au sein d'une salle consacrée au mode de vie des Cumeyes au San Diego Museum of Man. L'artiste, seulement vêtu d'un tissu enroulé autour de sa taille, est couché dans un bac installé sur une table comme dans une vitrine, son corps exposé au regard du public. Des cartels posés autour de lui indiquent que les cicatrices qu'il a sur le corps sont dues à son alcoolisme. Deux autres vitrines, qu'on ne voit pas ici, sont consacrées à des documents sur sa vie personnelle, diplômes, papiers de divorce, enregistrements des Rolling Stones par exemple, et aussi à des objets rituels. James Luna décrit ainsi son installation performance. The artifact piece was a performance installation that questioned American Indian presentation in museum presentation, that furthered stereotype, denied contemporary society, and one that not did enable an Indian viewpoint. Les musées répondent à 4 missions principales: collectionner, préserver, exposer et éduquer. Constituer une collection et produire une exposition ne sont pas des actions objectives ni neutres. Dans l'introduction de l'ouvrage Exhibiting Cultures, The Poetics and Politics of Museum Display, qu'ils ont coédité, Ivan Karp et Stephen Levine expliquent: Every museum exhibition, whatever its other subject, inevitably draws on the cultural assumptions and resources of the people who make it. Decisions are made to emphasize one element and to downplay others, to assert some truth and to ignore others. Aux États-Unis, la relation entre les musées et les Amérindiens et les Amérindiennes est profondément liée à la colonisation. Dans un premier temps, du XVIe siècle au XIXe siècle, les productions amérindiennes sont considérées comme des objets exotiques et exposées dans des cabinets de curiosité. Avec le développement de l'anthropologie, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces objets vont revêtir un intérêt scientifique. En même temps, leur collecte s'intensifie dans le but de préserver une culture qui est considérée en voie de disparition. Les objets sont alors exposés comme des artefacts. Un changement de paradigme émerge au début du XXe siècle. Les productions amérindiennes sont transformées en objets d'art, traduisant l'intérêt des artistes européens et européennes et euro-américains et euro-américaines pour ce qui est appelé les arts primitifs, et l'impact de ces derniers sur l'art moderne occidental. Ainsi, par exemple, l'exposition Indian Art of the United States, organisée par René d'Arnoncourt au Museum of Modern Art à New York en 1941, met en avant les qualités esthétiques et formelles des créations amérindiennes. Je vous ai juste mis un visuel ici. Pourtant, les artistes amérindiens et amérindiennes ont été et sont très peu présents et présents dans l'histoire de l'art américain. Des expositions cherchaient à inclure des artistes amérindiens et amérindiennes dans l'art américain. Je pense par exemple à l'exposition Two American Painters, Fritz Scholder and Tinsy Cannon, organisée en 1972 par Adeline Dombrowski au Smithsonian American Art Museum à Washington, D.C. Cependant, les artistes amérindiens et amérindiennes restent largement invisibles dans les expositions dédiées à l'art américain, ce qui se révèle lorsque l'on consulte leur catalogue. De plus, l'art américain et l'art américain peuvent être présentés comme deux catégories distinctes dans les collections des musées d'art. J'ai par exemple choisi ici de vous montrer une capture d'écran du site internet du Philbrook Art Museum qui me semble assez significative. Ainsi, l'art américain et l'art amérindien sont séparés. Les artistes amérindiens et amérindiennes ne sont pas considérés comme partie intégrante de l'histoire de l'art américain, mais comme faisant partie d'une autre histoire, celle de l'art amérindien. Plusieurs analyses ont déjà été effectuées sur les représentations des Amérindiens et des Amérindiennes dans les musées. Je pense par exemple à l'ouvrage édité par Richard West, The Changing Presentation of the American Indian, ou encore à l'ouvrage de Amy Leonotree, Decolonizing Museums, Representing Native America in National and Tribal Museums. Cependant, la représentation de l'art amérindien dans les musées d'art en particulier se révèle encore avoir été peu étudiée. L'objet de cette communication est d'analyser, à partir de leur catalogue, une sélection de 6 expositions consacrées à l'art amérindien dans les musées aux États-Unis depuis les années 1970, afin d'interroger les mécanismes d'exclusion et d'inclusion des artistes amérindiens et amérindiennes dans l'art américain. Quels ont été les objectifs et les limites de ces expositions ? Que dévoilent-elles sur les incompréhensions et les préjugés face à l'art amérindien ? Quels sont les récits qu'elles mettent à jour ? Et qu'apportent-elles pour repenser l'histoire de l'art américain ? Avant de commencer, je souhaite préciser que lorsque j'emploie la terminologie d'art amérindien, je ne défends pas l'existence d'un art homogène, essentialisé et figé dans une ethnicité. Je l'utilise en traduction de American Indian Art ou encore de Native American Art, qui sont les dénominations les plus couramment utilisées dans les expositions que je vais évoquer et qui ont regroupé des artistes amérindiens et amérindiennes. L'exposition 200 Years of North American Indian Art est organisée en 1971 au Whitney Museum of American Art à New York par Norman Feder, curateur des American Indian and Native Arts au Denver Art Museum. Ce dernier explique dans l'introduction du catalogue qu'il a choisi de limiter l'exposition à la période historique de l'art amérindien, excluant la période préhistorique. Ces dénominations ne sont pas sans poser problème car elles induisent que la colonisation marque le début de l'histoire des sociétés amérindiennes. Et il exclut aussi la période contemporaine. Une première question se pose. Comment interpréter l'application du terme art dans sa définition occidentale à des créations qui n'ont pas été réalisées dans cette optique ? En effet, la notion d'art, définie par les traditions artistiques et philosophiques européennes, est considérée comme une expérience esthétique autonome, alors que les productions amérindiennes exposées sont envisagées à la fois comme des expériences esthétiques, mais aussi comme des éléments du rituel et des éléments sociaux. De plus, Norman Feder mentionne deux autres jugements de valeur qui résultent du système de hiérarchie et de catégorisation de l'histoire de l'art occidental. Il indique qu'il n'a sélectionné que des objets d'art et pas d'artisanat, faisant certainement référence aux productions amérindiennes destinées au marché touristique. Et il valorise également les créations religieuses face aux créations domestiques, car il juge les premières plus complexes. Dans son essai « L'ouverture de la trappe, l'exposition postmoderne », Thomas McKevillé a écrit « La réinterprétation par les colonisateurs de ces objets, en dehors des intentions de leurs auteurs, glissant en fraude leur vouloir à la place de leurs intentions, représente une invasion continue de l'intégrité de la culture étrangère. Elle suppose que les producteurs des objets ne comprenaient pas leurs propres intentions, qu'il fallait le regard prétendument supérieur du connaisseur occidental pour leur dire ce que représentaient réellement leurs objets. » Quant au fait d'exclure la période contemporaine, Norman Feder justifie ce choix curatorial à la fois par le manque d'espace, mais également par le fait que les artistes contemporains et contemporaines ont la possibilité de montrer leurs œuvres dans au moins une douzaine d'expositions annuelles. Ainsi, cette exposition se différencie de l'exposition que j'ai citée en introduction, Indian Art of the United States, qui avait présenté des peintures d'artistes contemporains et contemporaines aux côtés de productions plus anciennes. Cette justification, apportée par Norman Feder, apparaît discutable. Elle pose deux questions. Les musées d'art ne doivent-ils se consacrer qu'à exposer des artistes décédés ? Et bien que les artistes amérindiens et amérindiennes aient la possibilité d'exposer leurs œuvres dans des expositions annuelles, on peut penser que Norman Feder fait ici référence à l'exposition Philbrook Indian Annual qui a été organisée par le Philbrook Museum of Art. Mais malgré cela, en quoi n'auraient-ils ou n'auraient-elles pas leur place dans un musée d'art dont la portée est internationale ? De plus, le titre de l'exposition ne fait pas mention de ce choix. Cette omission peut s'interpréter comme une volonté de positionner les artistes amérindiens et amérindiennes comme des autres culturels, en dehors de la modernité et de les maintenir ainsi dans le passé. Norman Feder conclut ainsi son texte. Introduction of new materials and techniques cause an elaboration and then a gradual decline in artistic production. There has been a slow, continual process, acculturation in most Indian groups. And this will lead eventually to complete assimilation, with the resulting of traditional disappearance on Indian traditional art forms. The trend seems to be toward the development of new art forms, utilizing the age-old Indian heritage, but based on non-Indian techniques and materials. Cette citation, dévoile comment la notion d'authenticité est ancrée à la conception occidentale de l'art dit indien, qui ne doit pas être contaminé par les influences d'autres cultures, sous peine de perdre sa dite essence. Elle suggère une résistance face aux récentes mutations de la scène artistique amérindienne. J'ai choisi de vous mettre cette image pour illustrer ces mutations. En effet, dès les années 50, des années 1950, tout en continuant à créer des formes considérées comme traditionnelles, de nombreux et nombreuses artistes amérindiens et amérindiennes s'affranchissent des limitations artistiques qui leur sont imposées en tant qu'artistes indiens. Je fais ici notamment référence au style de la peinture dite indienne qui s'est développé dans les années 1930 au sein du studio à Santa Fe. Loy Oxendin, artiste qui la même année organise en collaboration avec Henry Gent l'exposition Native North American Art, Contemporary Works by American Indian Artists au Brooklyn Museum, explique dans l'article 23 Contemporary Indian Artists, publié dans Art in America. Until quite recently, modern American Indian art was not considered authentic or valuable unless it was executed in strictly traditional Indian forms. This limitation arose from the praiseworthy desire to protect the historical continuity and integrity of Indian art as a separate from European techniques, materials, and concerns. Understandably, this attempt to preserve the Indian idiom stifled the work of Indian artists who are no matter how tribally oriented, modern men and women. La seconde exposition que je souhaite vous présenter est intitulée The Extension of Tradition, Contemporary Northern California Native American Art and Cultural Perspective. Elle a été organisée par l'artiste Frank Lapena en 1985 au Coker Art Museum à Sacramento. L'objet de l'exposition est de montrer des œuvres contemporaines d'artistes amérindiens et amérindiennes, not as evocations of a past heritage, but as part of the continuum of an evolving culture, as extensions of tradition, comme l'indique la directrice du musée, Barbara K. Gibbs. Dans l'introduction, Frank Lapena souligne le fait que les Amérindiens et Amérindiennes de la Californie du Nord ont maintenu leur tradition malgré les idées reçues. L'exposition souhaite témoigner de cet héritage, qui continue à se transmettre, en présentant à la fois des objets traditionnels et des œuvres contemporaines. Frank Lapena indique que pour comprendre la signification de l'art contemporain amérindien, il est nécessaire de prendre en compte le lien entre les arts traditionnels et l'art contemporain. Il insiste également sur le fait que les changements ne signifient pas la fin de la culture et des traditions amérindiennes. Indian artists are making expressions from their Indianness or traditional training if they have been lucky enough to receive it. At the same time, they are part of today's society and express their art in a contemporary way. Indian societies are not static or dead. They are dynamic and ever-changing. Dans son essai, Contemporary Indian Art, A Critic's View, pour le catalogue de l'exposition, Christopher Bourne souligne le fait que les artistes préservent la tradition by extending it forward. L'exposition vient ainsi élargir la notion de tradition de la pensée occidentale, c'est-à-dire comme appartenant au passé. Il décrit les œuvres de plusieurs artistes qui utilisent des motifs et des symboles de leur culture comme un moyen de préserver et de réinvestir leur héritage à travers une signification contemporaine. Par exemple, l'utilisation de motifs géométriques dans les œuvres de Brian Dietrich, ou encore l'utilisation de symboles, comme le personnage du coyote dans les œuvres de Harry Fonseca. En 2012, Karen Crummell Russell, curatrice de Native American Art and Culture, organise au Peabody Ede Essex Museum à Salem, dans le Massachusetts, l'exposition Shapeshifting Transformations in Native American Art. L'exposition vise à montrer la diversité de la culture et de l'amérindien, en exposant des créations anciennes et des œuvres contemporaines, sans distinction entre l'art et l'artisanat. L'objectif est de proposer un nouveau cadre de référence pour interpréter l'art amérindien, en soulignant les connexions entre le passé et le présent. Karen Crummell Russell explique au sujet des expositions qui se concentrent soit sur l'art amérindien historique, soit sur l'art amérindien contemporain. This approach perpetuates a disconnect between then and now, rather than exploring links and continuities. L'exposition est organisée en quatre catégories, correspondant chacune à une action. Changing, knowing, locating et voicing, qui sont explicités ainsi. Changing explores how native artists continuously seize artistic innovations in terms of subjects, materials and process. Knowing celebrates diverse ideologies among tribal communities as expressed for art. Locating examines how artists visually orient themselves according to family, community, land and place, revealing some of the complex layers that comprise native identity. Voicing recognizes the artist and explores individuality and expression of self in relationship to the surrounding world. Dans son essai « Expected Evolution of the Changing Continuum », Bruce Bernstein souligne que la dichotomie entre tradition et contemporain n'est pas appropriée pour interpréter l'art amérindien. Tradition and traditional art can be seen as restrictive and stultifying concepts, but this is to misunderstand the service they can render to creativity. For native people and their art, tradition is not a stagnant set of rules and practices, but rather a set of principles and values that provide a foundation for change, a wonderful and vital part of art making, a strength of native communities. Ainsi, ces deux expositions mettent l'accent sur les liens entre des productions qui sont séparées par un système de classification qui crée des malentendus sur leur signification. Elles introduisent une perspective amérindienne qui rompt avec l'idéologie moderniste occidentale de rupture, de progrès et de nouveauté. Les formes traditionnelles ne sont pas abandonnées mais transformées. La tradition n'a rien de fixiste. Elle est ancrée dans une capacité d'adaptation et d'intégration de la nouveauté. Ah, j'ai oublié, je vous avais juste mis trois œuvres en fait, qui ont été exposées donc, dans la catégorie Changing. Ici, une œuvre de Nicolas Galeguin, une œuvre de Virgil Ortiz, une œuvre de Howard Silvey. Voici. Je vais vous parler maintenant d'une autre exposition. Donc, l'exposition que je vais maintenant vous présenter s'intitule Native American Art 81 et a été organisée par Erin L. Wade, curatrice du Native American Art au Philbrook Art Center, situé à Tulsa, Oklahoma. Le Philbrook Art Center porte un intérêt particulier à la scène artistique amérindienne depuis le début du XXe siècle, notamment par l'organisation de l'exposition Philbrook Indian Annual, que j'ai déjà évoquée. L'exposition a donné lieu à un catalogue intitulé Magic Images, Contemporary Native American Art. Réunissant 37 artistes, elle présente une sélection d'œuvres créées depuis les années 1960. Les coéditeurs du catalogue, Edwin L. Wade et Renard Strickland, définissent quatre catégories stylistiques pour les œuvres exposées. Historic Expressionism, Traditionalism, Modernism et Individualism. Je vais vous lire l'explication de chacune d'elles en mettant en lien une des œuvres exposées qui lui correspond. Historic expressionism as a style remains true to the techniques and design conventions of 19th century tribal aesthetics, even though themes may have changed. Traditionalism retains a flat or two-dimensional shady treatment of historic native imagery. Modernism freely experiments with mainstream contemporary art techniques, yet retains visually identifiable Native American imagery. Individualism is not a single style, but is totally inextinguishable from mainstream contemporary art. Dans leur texte, les auteurs soulignent que le changement n'est pas synonyme de déclin. Ils expliquent, it's not logical to demand that contemporary artists depict an ancient light that never lived. Ils défendent le fait que les artistes ne doivent pas être limités par l'étiquette ethnique, ce qui ne signifie pas qu'ils ou qu'elles abandonnent leur point de vue en tant qu'Amérindiens et Amérindiennes. The future of American Indian art lies not in restrictive, thematic or stylistic images, but in the individual visions of artists attuned to native values and sensitivities. En 1991, se tient l'exposition Shared Visions, Native American Painters and Sculptors in the 20th Century, au Hull Museum à Phoenix, en Arizona. L'exposition a été ensuite montrée dans plusieurs musées américains, comme par exemple l'International Gallery du Ripley Center Smithsonian Institute à Washington, D.C. Le fait que l'exposition soit accueillie dans un espace dit international n'est pas sans poser de questions, comme le souligne Catherine Baldi dans son ouvrage « L'art contemporain des Indiens du Sud-Ouest des États-Unis ». Cette dernière relate aussi les refus de l'exposition par des musées et cite des exemples de réponses qu'ont pu apporter ces derniers. Nous avons fait une exposition indienne l'an dernier. Je pense que vous nous confondez avec le musée d'histoire naturelle qui se trouve à deux rues d'ici, ou encore nous sommes un musée d'art. Ces exemples sont révélateurs des stéréotypes associés à l'art amérindien, envisagé comme un art ethnique en périphérie du courant dominant de l'art. L'exposition a été montée par Margaret Archuleta, curatrice du Fine Art au Heard Museum, qui a organisé dans les années 1980 la Biennale Native American Fine Arts Invitation, et Renard Twickland, directeur du American Indian Law Center à University of Oklahoma, qui est le coéditeur du catalogue précédent. L'exposition se consacre aux œuvres des principaux et principales artistes du 20th Century Native American Fine Movement, comme l'identifient les auteurs. Elle montre des peintures du début du siècle de Carl Sweezy, jusqu'à des œuvres produites pour l'exposition sur le sujet Encounter and Response, en lien avec les 500 ans de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Je vous ai mis ici, par exemple, un photocollage de Ulea Tsinagini. Le choix d'avoir ouvert l'exposition sur des médiums autres que la peinture et la sculpture permet d'appuyer sur la diversité des œuvres des artistes amérindiens et amérindiennes. Les auteurs soulignent l'influence d'artistes modernes non amérindiens sur les artistes amérindiens. Native American painters, including George Morrison, T.C. Cannon, Fritz Schulder, James Harvard and George Longfish, were increasingly influenced by modern non-Indian painters, who were in turn influenced by the primitive, a classic example of cross-fertilization. Et pose la question, how often do we hear or read about this remarkable chapter in American art history? Margaret Dubin, dans son essai Sanctioned Scribes, How Critics and Historians Write the Native American World, met l'accent sur la complexité de ces échanges. Western artists do borrow elements from the aesthetic repertoire of other cultures, but this usually interpreted not as ethnic mutiny, but as a temporary and incidental cross-fertilization inspired by specific historic conditions. This has not been the case for non-Western artists, who claim membership in formerly primitive culture in particular are expected to perpetuate their own historical forms. Indian people are generally viewed as more connected to the past, often an imagined past, than to the present. Because they are not seen as equal participants in a shared modernity, their interpretation of non-native forms and styles are frequently viewed as mimicry rather than intelligent responses to larger human conditions. L'exposition se découpe en différents mouvements qui jalonnent l'histoire du Native American Film Movement. Par exemple, Early Narrative Genre, 1815-1953, que j'illustre avec cette œuvre de Carl Sweezy, mais également New Indian Painting, 1940-present, et Contemporary, 1960s-1991. Ainsi, en réunissant des artistes amérindiens et amérindiens de plusieurs générations, cette exposition vise ainsi à établir une généalogie de l'art amérindien, ainsi que lui apporter une légitimité dans l'histoire de l'art américain. La terminologie du mouvement implique à la fois une volonté d'intégrer les artistes amérindiens et amérindiennes dans le courant dominant, sans pour autant nier l'expérience amérindienne. Ces deux expositions vont être critiquées à cause de leur filiation à des catégories et des hiérarchies du mainstream. William Jackson Rushing, dans son texte d'introduction au dossier « Critical Issues in Recent Native American Art », publié dans Art Journal en 1992, explique « Rather than demonstrate that the achievements of 20th century Indian artists problematize the Euro-American bias of a modernist canon of high art that is largely devoid of works by women and persons of color, this construction after the fact of a Native American fine arts movement perpetrates the special distinction between fine arts and crafts that has served institutionally to segregate Native artists. To insist on recognition, institutional and otherwise, for these artists, which they clearly deserve, by appealing to a hierarchical system, high, fine, popular, folk, primitive, tourist, kitsch, dependent on class and cultural awareness, is to capitulate, conceptually at least, to an aesthetic ideology that valorizes certain media at the expense of others. La dernière exposition dont je souhaite parler s'intitule No Reservations, Native American History and Culture in Contemporary Art. Elle a été organisée en 2006-2007 par Richard Klein, directeur des expositions au Aldrich Contemporary Art Museum, situé à Richfield, dans le Connecticut. Cette dernière rassemble 10 artistes, 5 artistes amérindiens et amérindiennes, et 5 artistes non-amérindiennes, dont les œuvres portent sur l'influence de la culture et de l'histoire amérindienne dans la société actuelle. Je vous ai mis juste ici 2 œuvres, une œuvre de Lewis DeSoto et une œuvre de Mary Watt. En réunissant des artistes amérindiennes et non-amérindiennes, il s'agit de défier les catégorisations et de placer ces artistes dans la scène artistique contemporaine, sans pour autant nier le passé, tout en dépassant les ghettoisations qui ont été imposées par l'étiquette ethnique et aussi créer un dialogue. Dans son essai « Americans Without Tears », Paul Chadsmith souligne en quoi cette exposition s'écarte des normes et souligne l'invisibilité que subissent les artistes amérindiens et amérindiennes au sein de la scène artistique contemporaine américaine. Klein has organized this exhibition in a spirit of respectful dissent with the prevailing codes of how Indian contemporary art should be presented. The code strongly advises that Indian artists should be in a group exhibition with other Indians. The code also advises that only Indians have authority to speak on Indian issues. And Indian issues should be about land or identity, or we are, have always been, will always be here, and that Indians are not sacred, and so forth. The code has been in effect for a couple of decades now, and to state things bluntly, it feels deader than disco. In the United States, a few dozen Indian artists regularly get exhibitions, almost never at major galleries or museums. Avant de conclure, je souhaite seulement signaler que dans le catalogue de cette exposition, comme aussi dans la récente exposition Changing Heads, Art Without, Reservation Free, l'appartenance tribale des artistes amérindiens et amérindiennes n'est pas signalée dans leur identification biographique, ce qui dans les 4 autres expositions précédentes était le cas. Donc, pour conclure, l'exposition 200 Years of North American Indian Art excluait les artistes contemporains et contemporaines de l'espace muséal, ancrant dans le passé l'art amérindien, qu'il faut maintenir dans une soi-disant authenticité. Les 5 autres expositions ont au contraire développé des stratégies d'inclusion. Elles font écho au concept de « survivance » de l'écrivain amérindien Gerald Wiesenor, que Joel Wostrowski a expliqué ainsi. Il s'agit d'attester de la continuité de la présence indienne aux États-Unis, de témoigner d'une mémoire active, nourrie par la tradition orale, qui peut s'incarner dans une praxis politique. La diversité des œuvres est mise en avant. Ces expositions ont appuyé le fait que les artistes amérindiens et amérindiennes ont toujours étendu leur tradition et ont expérimenté des changements, reflétant ainsi la société qui les entoure. Elles ont cherché à renverser la tendance du courant dominant, à positionner les artistes amérindiens et amérindiennes en dehors des discours modernes et contemporains. Elles se sont attachées à la reconnaissance d'un art libéré des frontières qu'on lui impose par l'étiquette ethnique. Comme l'artiste Jimmy Durham s'est défini, je suis un artiste Cherokee qui tente de faire de l'art indien qui soit considéré juste comme universel et sans limite, au même titre que l'art de l'homme blanc. Cependant, ces expositions n'ont pas tenté d'effacer les différences et d'absorber l'art amérindien dans l'histoire de l'art dominante. Elles ont apporté de nouveaux cadres de référence pour penser les systèmes esthétiques et conceptuels amérindiens. Elles ont aussi défendu la nécessité de penser différemment l'art américain. Il s'agit de dépasser les dichotomies, tradition contre contemporanéité, beaux-arts contre artisanat, ou encore high art versus low art, qui discriminent les artistes amérindiens et amérindiennes et les invisibilisent dans l'histoire de l'art américain. Il s'agit également de penser un pluralisme de modernité, tout comme de déhiérarchiser, de délinéraliser et de décentrer pour enfin décoloniser les musées d'art. Il est légitime de se demander si ces expositions dédiées à l'art amérindien ne participent pas à sa ségrégation de l'art américain. Cependant, tant que les institutions muséales maintiendront leurs pratiques discriminantes, ces expositions s'affirment nécessaires pour rendre visibles les artistes amérindiens et amérindiennes et déconstruire les cadres de référence qui les maintiennent à l'écart. Je souhaite terminer cette communication en mettant en lien une œuvre de l'artiste John Quigley Smith qui s'intitule « Celebrate 44,000 years of American art » et une citation de Bruce Bernstein de son essai « It's art, keep talking while we keep walking but hold it down so I can hear myself think. » To be blunt, people see art made by Indians and they classify it as Indian art. Art made by the other. And not to be confused with or considered together with American art. Funny thing, without due consideration of Indian art, we are missing the vast majority of American art history. Thousands of years of the development of ideas about the American landscape and peoples that have shaped and continue to shape American population and identities. Art of native people is excluded because Indian histories are left out of American histories in an act that, Chad Smith says, is a constructed amnesia. Merci.